On parlait de Donald Trump, on parlait des États-Unis, ben on reste là-dedans avec notre ami Luc Laliberté, qui est chroniqueur politique américaine pour le groupe Québécois et ex-enseignant en histoire des États-Unis au Cégep Garneau. Luc, qu'est-ce qui se passe? T'as une calotte sur la tête, es-tu déguisé pour l'Halloween?
Écoute, et ça brûle un peu pour un fan fini des Red Sox depuis qu'on a perdu les Expos. Je l'ai rappelé d'ailleurs dans un documentaire il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Je suis un fan fini des Red Sox, mais là, écoute, on a les Dodgers d'un côté, formidable machine de baseball, mais on a un peu de nous avec les Blue Jays. Donc, les Blue Jays ce matin, il y a déjà un panneau sur la porte. L'Halloween se termine à 20h chez nous. Donc, on met les enfants dehors après, on regarde le match.
Cool.
J'exagère un peu, mais ça risque d'être drôlement intéressant parce que ça peut se décider ce soir.
Ouais, moi, je sais pas si t'es de mon avis, mais je préfère un match 7 parce que je trouve ça beaucoup plus excitant.
Ah, tout à fait.
Le Canada et les États-Unis, tout le monde va être rivé sur leur écran si ça se passe samedi. Les restaurants vont être pleins, les bars vont être pleins, tout le monde va être rivé devant son téléviseur. Puis, que le meilleur gagne.
Et le sport, pour moi, c'est surtout de l'ambiance. Il faut qu'il y ait un thrill. Je suis moins un partisan fini que je veux avoir une expérience intéressante. Comme c'est pas mes deux équipes préférées qui sont là, ben écoute, moi aussi, je serais partisan d'un septième match.
Ouais, ouais.
Allons au max avec cette expérience.
C'est comme la finale pour la médaille d'or aux Olympiques pour ce qui est du hockey. Tu sais, quand Sidney Crosby a fait le Golden Goal.
Ah, quel moment.
J'étais à cage au sport, Luc. Le toit, il a levé tellement que tout le monde a gueulé. C'était un des plus beaux moments de ma vie que je vivais en groupe. Puis, je veux en garder des souvenirs. Donc, samedi, s'il y a un match 7, je pense que ça va faire partie de nos plus beaux souvenirs aussi. Surtout si les Blue Jays gagnent et Donald Trump pleure. On veut qu'il pleure! We the North! C'est à nous autres, ce sport-là! Incroyable, incroyable. Hey, est-ce que c'est pas fini, ça, les histoires de faire exploser les fameux bateaux qui proviennent du Venezuela
et
qui
continue.
Se dirigent vers les États-Unis? Il y a encore un bateau qui décide, à chaque fois qu'un petit bateau arrive, on pèse sur le piton et on détruit ce bateau-là. Y a-t-il quelqu'un qui va intervenir à un moment donné? Parce que ce serait bien que ces gens-là aient un procès juste et équitable. Là, c'est...
Puis Donald Trump joue encore une fois. Si on est partisan de Donald Trump, on est content parce que partout où on croit qu'il y a une faille, Donald Trump en bénéficie. Donc, il y a deux volets derrière ce qui se passe actuellement au Venezuela. Il y a un volet politique intérieur. Est-ce que le président peut seul lancer comme ça couler des navires comme il en a envie? Il y a une disposition particulière. Le président peut faire ça si c'est une question de sécurité nationale. Sinon, il va avoir besoin de... C'est le commandant en chef de l'armée, donc ça va, on est au sommet de la hiérarchie. Mais il a besoin du Congrès s'il veut aller plus loin. Certains pensent même qu'on a des intentions assez nettes de renversement de régime au Venezuela et que Donald Trump sait prêt à ce qu'il y ait des soldats sur le terrain. C'est pas fait. Ça fait partie des scénarios qu'on envisage. Mais pour faire ça, il a besoin du Congrès. Donc, il a besoin de la Chambre des représentants et du Sénat pour aller de l'avant. Donc, il est comme à la limite de ses pouvoirs, puis vous aurez remarqué qu'en politique intérieure, tout est devenu une question de sécurité nationale pour Donald Trump. Donc, il gère les tarifs comme ça, il gère la garde nationale comme ça, puis il gère les interventions à l'étranger de la même manière.
Parce que tu comprends que, tu sais, entre le Venezuela et les États-Unis, je choisis les États-Unis, on ressemble un peu plus aux États-Unis, mais de voir qu'on peut prendre une décision tout simplement, on a de l'information sur place comme quoi il y a un bateau qui part du Venezuela puis qui s'en vient vers chez nous avec de la drogue, on pèse sur Enter, le missile est lancé, on détruit le bateau. Tu sais, on me dit pas si le propriétaire du bateau, c'est le capitaine, puis il est pas pris en otage, s'il est pas obligé de faire cette trail-là avec la dope. J'aimerais qu'il y a une intervention, que les Américains arrivent au large, puis ils prennent ce bateau-là, puis ils disent, regarde, tu vas t'en venir chez nous, on va vérifier t'es qui, qu'est-ce que tu fais, t'étais-tu au courant, la dope, c'était-tu vraiment de la dope, c'était-tu d'autres choses? C'est catastrophique. C'est un petit geste pour certains, mais moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur Donald Trump. Là. Il n'y a pas de procès, on règle ton compte là.
C'est la raison pour laquelle je te disais, il y a un volet politique intérieur. L'autre volet, puis c'est en plein ce que tu es en train d'exprimer et de décrire, il est en contravention des traités ou des lois internationales. Si chaque pays se mettait à utiliser des armes comme ça, parce que mine de rien, on parle souvent de guerre, mais on traverse une période relativement calme dans l'histoire de l'humanité, puis même dans l'histoire du 20e siècle. Est-ce qu'on va se mettre à tirer sur des navires comme ça sous prétexte qu'on fait le commerce de la drogue et probablement avec un autre agenda? Donc, Donald Trump, sur la scène internationale, il est en rupture avec le droit international. En tout cas, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas plus d'informations que ce dont on bénéficie maintenant. Puis chez lui, ben, je le répète, on est vraiment à la limite des pouvoirs du président constamment. Et ça, c'était clair. On l'avait écrit, le fameux projet 2025 qui avait été pensé par la Heritage Foundation. C'est un programme très, très conservateur qu'on souhaite appliquer aux États-Unis. Et ça passait par un exécutif très, très, très fort. Donc, un président qui aurait plus de pouvoir que ce dont il jouit vraiment selon la Constitution. Donc, on est là. Donald Trump applique ce plan de match-là. Les premiers à être en mesure de réagir, c'est d'autres politiciens. Ce sont les élus. Jusqu'à maintenant, les républicains n'ont pas osé dire au président, on a peut-être franchi les limites. On formulerait ça différemment. Mais grosso modo, le message, c'est hey, attendez un peu, vous jouez dans les plates-bandes des élus du Congrès. Et là, Donald Trump ben, semble passer outre les élus de la Chambre des représentants et du Sénat comme bon lui semble.
La grosse nouvelle hier concernant
Oui.
Donald Trump, c'est que Vladimir Poutine tenterait des essais nucléaires, alors que les Russes disent non, non, on tente des essais de missiles qui peuvent porter des têtes nucléaires. Et Trump dit, ben nous, on va faire des essais nucléaires. Est-ce que c'est du bluff, encore une fois, ou on va vraiment le faire? Il n'est pas supposé faire ça.
Non, d'ailleurs, le dernier traité entre la Russie et les États-Unis sur le nucléaire prend fin de limitation des essais nucléaires prend fin l'année prochaine. Donc 2020. Puis quand je dis l'année prochaine, on est en novembre, c'est plus très loin. Donc ce traité-là prend fin avec la nouvelle année. Ce n'est pas une bonne nouvelle que Donald Trump ne fasse que rouler des mécaniques, sortir les bras ou que il soit sérieux dans ses intentions. C'est pas une bonne nouvelle. La dernière fois que les Américains ont fait des essais nucléaires, c'est 1992. C'est pas demain qu'on va les reprendre non plus, parce que la dernière fois, on avait fait ça dans des territoires un petit peu plus sécuritaires, mais ça se prépare, un essai nucléaire, pour éviter les retombées, parce qu'on va les faire aux États-Unis souvent. Donc, on calcule que c'est près de 2 ans que ça prend pour préparer un site pour être en mesure de faire des essais nucléaires. Mais à l'échelle internationale, donc, il y a 9 pays maintenant qui possèdent du nucléaire. Les deux grands, les deux joueurs majeurs là-dedans sont les États-Unis et la Russie, avec un court avantage à la Russie. La Chine, avec laquelle M. Trump est en train de négocier, qui récupère son retard, mais à vitesse grand V, surtout dans les missiles hypersoniques. Donc, puis on a d'autres pays qui vont de l'avant. On pense que l'Iran pourrait s'ajouter éventuellement comme puissance nucléaire. C'est au cœur, hein, des discussions quand on en a avec l'Iran. C'est ce qu'Obama tentait de limiter quand il a signé ce traité avec des joueurs européens et l'Iran. Mais pour nous, là, pour ceux qui sont à l'écoute, c'est assurément pas une bonne nouvelle. J'ai grandi en partie hein, durant la guerre froide jusqu'à la chute du mur. Puis on disait c'est la grande menace. Souvent, on dit c'est uniquement un effet dissuasif. C'est l'idée hein, de la guerre froide, c'était tant aussi longtemps que chacun est bien armé de son côté, il se passera rien. Mais on a des points chauds sur la planète actuellement, sur lesquels on a menacé d'utiliser l'arme nucléaire. Tu référais à Vladimir Poutine, je pense à l'Ukraine. Il y a des centrales nucléaires en Ukraine. Vladimir Poutine a menacé d'utiliser du nucléaire de courte portée, mais ça reste du nucléaire. J'aime pas l'ambiance. On semble, et il y a plusieurs spécialistes de la question qui sont d'accord, on semble être dans une nouvelle course à l'armement et plus à l'armement nucléaire. Et ce n'est que la grande sagesse que de dire, j'aime pas ça. J'aime pas le ton et la tournure que ça prend.
Luc, en même temps, je lisais des essais nucléaires. On n'a plus besoin de faire ça aux États-Unis avec la technologie. On est capable de faire plein de simulations avec les armes qu'on a. Donc, qu'est-ce que Donald Trump recherche derrière ça? C'est vraiment démontrer son rapport de force?
L'image, peut-être?
Il y a assurément, d'abord, faut quand même, on peut planifier ou simuler des attaques nucléaires. Faut encore s'assurer que l'arsenal qu'on a fonctionne. Donc, il y a tout le système de lancement de missiles et
D'accord.
il y a l'ogive nucléaire elle-même qu'il faut quand même tester. En passant, il y a là-dedans des choses très nouvelles à la fine pointe, mais entre guillemets, en très mauvais français, il y a du vieux stock là-dedans aussi. Et c'est vrai pour les Russes. Donc, on va tester ça. L'autre chose, assurément, c'est ce que Donald Trump aime faire. Il a été élu comme ça, il a mené ses affaires comme ça. Nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs. Hein?
Ouais.
D'ailleurs, Donald Trump est le seul à dire que les États-Unis sont devant la Russie maintenant en termes de capacité nucléaire. tout ce que je vois de sites d'analyse indépendants, puis à partir des données dont on dispose, disent c'est la Russie qui est légèrement devant. C'est peu important, le premier dans ce cas-là. On en a plus qu'il en faut pour faire sauter la planète. Mais il y a donc une démonstration de force, c'est un symbole. Et je pense que c'est un message qu'on envoie aussi à la Chine. Parce que la Chine est toujours le troisième joueur, mais on était très, très loin derrière les États-Unis et la Russie, ce qui n'est plus le cas. Et ça, c'est un changement majeur pour la Chine qui était moins portée sur les forces armées, sur le développement militaire. Ceux qui suivent ce qui se passe en Asie-Pacifique, non seulement la Chine a maintenant des capacités militaires accrues, mais elle a accéléré le développement de son programme nucléaire. Donc, si je suis la Corée du Sud, par exemple, un allié des États-Unis, un, j'aime pas ça du tout, et deux, j'aime pas nécessairement que la tournure qu'a pris le gouvernement américain ou la politique étrangère américaine sous Donald Trump. On peut être pour ou contre Trump ici, je me mets à la place de la Corée du Sud. J'aime pas ce qui se passe présentement. Jusqu'où je suis sécuritaire, jusqu'où on me protège quand au nord j'ai Kim Jong-un et que j'ai la Chine tout près. Et d'ailleurs, on ne sait plus du côté de la Corée du Nord à faire passer des missiles soit au-dessus du Japon, soit au-dessus de la Corée du Sud. Et c'est un message qu'on a envoyé. Donc, ça rend des alliés récents puis traditionnels des États-Unis beaucoup plus nerveux.
Ouais. Luc, je dois te laisser partir parce que je sais que tu as d'autres engagements. Juste avant, oui. Il y a quelque chose qui vient de se passer pour le match de ce soir entre les Blue Jays et les Dodgers de Los Angeles. Il y aurait de l'information qui commence à couler, Max.
Ouais, c'est Dan Richard de RDS qui mentionne que les Dodgers fermeraient pas la porte à ce que Shohei Ohtani soit utilisé en relève pour lancer ce soir, mais...
Il peut pas le faire demain.
Ben, puis il y a un règlement, même pour ce soir. Si Ohtani est utilisé en relève puis qu'il est retiré du match comme releveur, ben, il pourrait plus frapper non plus.
Oh!
Fait que, d'après moi, on l'utilisera pas en relève, non. Mais en même temps, si tu sens que t'as pas le choix...
Ouais, c'est une stratégie.
On parlait de dissuasion, on parlait de démonstration de force. Les Dodgers sont dans les câbles. Est-ce que c'est pas une façon un peu de déstabiliser l'adversaire que de dire... Le plus grand athlète au baseball actuellement risque de revenir. Va être intéressant à suivre.
Go Blue Jays, go! Merci Luc!
Salut, bonne journée!
Bye-bye, Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine pour le groupe Québécois et ex-enseignant en histoire des États-Unis au cégep de Garneau. 7h58, vous avez des choses à nous dire par texto, c'est le 88-971-1011, c'est possible de le faire en toute sécurité. À la météo, il pleut à boire debout et ce sera ça toute la journée ainsi que toute la soirée.
Il y a un accident, ça s'est réglé dans les dernières secondes, mais il y a des répercussions encore évidemment. Le Robert Bourassa Nord, l'accès vers Capitale-Est, voie de droite et voie réservée qui était bloquée pendant un petit bout en raison d'un accident, fait que évidemment que ça a causé des problèmes. Et sinon, en 4 Sud, hauteur boulevard Wilfrid Hamel, la voie de droite qui est bloquée en raison d'une panne de véhicule lourd. Et ça aussi, c'est problématique. Mais généralement, ça va c'est léger sur le réseau. Là. On voit que c'est vendredi, on voit qu'il y a des pédagogiques par endroit.
Marceau le matin.